D4B 90 4 AML 101 4 Agnor et sur le net radio4b.so.fr, c'est l'heure de retrouver votre magazine.
Bonjour et bienvenue dans le magazine de D4B. Le temps passé parmi les arbres n'est jamais du temps perdu, dit un dicton américain. Jean-Luc Bégard n'a pas perdu son temps après une formation solide et variée. Il vient de créer A comme arbre, un cabinet d'expertise et de conseil en arboriculture destiné aux individuels, aux collectivités et aux entreprises. Il vient de nous parler de son projet. Merci de nous avoir rejoints dans le studio,
Jean-Luc. Ben, merci à vous de m'accueillir.
Alors, avant de commencer, vous êtes avant tout pour moi un créateur d'entreprise.
Tout à fait, oui, tout à fait. En tant qu'entreprise individuelle, ça y est, l'entreprise est lancée et donc je me lance dans la grande aventure.
Voilà, et justement, je voulais vous demander, bon, vous avez 34 ans, vous avez quelques années d'expérience derrière vous, là vous franchissez ce pas de la création d'entreprise. Comment vous avez vécu jusque-là ce parcours? Comment vous voyez la réalité du créateur d'entreprise, de celui ou de celle qui a un projet et veut le faire naître dans la France de 2018-2019? Comment vous avez vécu le parcours jusqu'ici?
Eh bien, je me suis vraiment mis en tête que j'allais vraiment concrètement lancer mon projet à partir de mai. Donc il faut du temps, il faut de la patience, il faut vraiment mettre en place petit à petit toutes les étapes nécessaires avant vraiment d'être à son compte. Ces étapes, il y en a beaucoup, il faut vraiment les faire dans l'ordre et de manière réfléchie et logique. Donc il faut être patient et une fois que c'est prêt, ben on est vraiment excité de commencer et le départ est génial. Mais voilà, il faut vraiment faire toutes les étapes administratives, rencontrer les gens qu'il y a rencontrés, etc., jouer le jeu.
C'est lourd comme ça vous a...
C'est long en fait, c'est long, donc faut garder espoir et continuer à faire tout ce qu'il y a à faire. Et ça demande beaucoup de temps de mise en place, quoi.
Mais il y a aussi une motivation, ce qui vous concerne, cette création d'entreprise, cette création de ce cabinet est liée à une passion.
Ben, tout à fait, oui.
Voilà, donc A comme arbre, votre passion, c'est les arbres. Vous vous décrivez d'ailleurs comme médecin des arbres, c'est ça?
C'est ça, ouais. C'est pour faire simple, c'est ça. C'est vraiment mon boulot. Je serai médecin des arbres. Donc effectivement, il faut être assez passionné pour se lancer là-dedans.
Alors, juste très brièvement, puisqu'on va revenir, mais médecin des arbres, c'est-à-dire vous allez aller avec un stéthoscope et faire les troncs, non?
C'est... Non, le plus gros du travail de la médecine de l'arbre, si on peut dire, c'est de l'observation visuelle, en fait. On va observer toutes les parties importantes de l'arbre, donc le tronc, le collet, les racines, donc ce qu'on peut regarder, et les branches et feuilles. On va passer beaucoup de temps juste au visuel, à vraiment faire un par un tous ces organes. Et ensuite, si on a des doutes sur l'intérieur du tronc, qui est une partie très importante au niveau de la stabilité, on va utiliser des matériels un peu plus qui rentrent un peu plus dans le tronc, donc notamment le maillet, qui sert juste à entendre la résonance de l'intérieur du tronc en tapant dans le tronc avec le maillet. Et on utilise aussi ce qu'on appelle le résistographe ou le pénétromètre, qui est une perceuse avec une mèche très longue et très très fine qui permet de rentrer dans le tronc sans l'abîmer pour savoir si le bois à l'intérieur est sain ou pourri ou complètement absent. Il y a beaucoup d'arbres qui sont complètement creux et qui pourtant tiennent debout sans aucun problème et d'autres qui sont creux et qui demandent qu'à tomber et ça se voit pas du tout de l'extérieur.
Donc travail de diagnostic avec le but de faciliter la gestion des parcs arboricoles, d'accord?
Voilà, tout à fait.
La passion de l'arbre, pour vous, Jean-Luc Bégard, ça vient comment? Ça vient à quel âge? Et ça vient de loin, non?
En fait, moi, je suis originaire de Lille. Mes 10 premières années, jusqu'à mes 10 ans, donc j'habitais en plein centre-ville avec beaucoup de bruit, etc., beaucoup de pollution. Ensuite, à mes 10 ans, je me suis retrouvé au fin fond de la Vendée, en pleine campagne, au milieu de la forêt.
Changement, hein?
Ouais, gros changement d'un coup, au milieu de la forêt de Mervent, donc une très belle forêt en plus. Et moi, j'étais à cet âge-là très, très content. Donc, je me suis mis à faire des cabanes dans les arbres.
Ça remonte à ça. C'est le petit garçon qui
voilà,
découvre...
Ouais.
Vous n'aviez pas eu jusque-là, dans l'agglomération lilloise, qui est une des grosses agglomérations urbaines d'Europe. Hein. Mm-hmm. Ça a vraiment été la découverte d'un univers pour vous ?
C'est-à-dire que j'aimais bien aller dans les parcs à Lille. Il y en avait un qui n'était pas trop, trop loin de nous où on habitait, que j'adorais, parce qu'il y avait des gros arbres assez vieux. C'était sympa, mais on est quand même un peu... On est quand même sur le béton en permanence, quoi, sur le bitume en permanence. Donc là, de me retrouver en plein milieu de la forêt, ça me plaisait beaucoup. Et donc, je pense que vraiment que c'est là que ma passion a commencé pour les arbres. J'aimais être avec eux, faire des balades dans les arbres, enfin autour des arbres. Et voilà, ça me plaisait tout ça.
Et ça vous a jamais quitté, ça a orienté même ?
Ouais, ça a beaucoup orienté mes études par la suite. Donc moi, au collège et lycée, j'étais très dans la biologie, les SVT, un parcours un peu classique, avec un bac S en biologie. Ensuite, j'ai été à la fac à Nantes et j'ai fait donc des études plutôt orientées vers la biologie encore, mais très vite orientées vers le végétal. Donc j'étais plus dans la production végétale au début.
C'est quoi la différence entre biologie et végétal, cette nuance?
C'est-à-dire que la biologie englobe aussi l'animal, quoi.
Voilà,
et moi, ça me plaisait moins, même si j'étais assez passionné par tout ce qui est plutôt évolution. Mais très vite, je voulais plutôt travailler dans le végétal. Donc, j'ai fait pas mal d'études dans le végétal et dans l'écologie. Et finalement, je me suis orienté vers tout ce qui était production plutôt de vergers, donc production pérenne en fait, et avec une petite spécialisation. Donc ça, c'était à Angers, et j'ai fait une spécialisation tout à la fin de mes études sur la foresterie urbaine, ça s'appelle, c'est-à-dire les arbres de ville en fait. C'est un terme anglo-saxon, urban forestry, qui en fait désigne vraiment les arbres de ville. C'est un master 2 qui est à Nancy, qui est vraiment passionnant. Et c'est ça qui m'a orienté vraiment vers l'arbre de ville.
Nancy, c'était ce qu'on appelle c'était les anciennes eaux et forêts, c'était ça ?
Voilà, c'est ça, c'est les anciennes eaux et forêts, donc qui s'appelle NGREF maintenant, AgroParisTech Nancy.
Voilà, donc si j'ai bien compris, une union de plusieurs écoles sur cette thématique.
Comme ça se fait beaucoup, ouais. Il y a de plus en plus d'écoles comme ça qui se regroupent. Et donc voilà, Nancy fait partie de l'AgroParisTech, mais j'ai quand même un diplôme qui dépend de l'INH, maintenant qui s'appelle INHP, qui est l'école d'ingénieurs en horticulture de Angers, qui fait partie d'Agro Campus Ouest.
Voilà, donc
vous êtes... une sorte de double diplôme.
Voilà, en fait. Diplôme d'ingénieur.
Oui, voilà, tout à fait. Oui.
Vous parlez de cette foresterie urbaine. On en parle beaucoup, notamment sur la gestion des canicules. Pour vous, en tant que spécialiste, en tant qu'ingénieur, vous voyez, vous pensez, quand vous créez votre entreprise, vous dites de toute façon, on va être amené, les communes, petites, grandes, moyennes, vont être amenées à faire ça.
C'est-à-dire que ça a vraiment été prouvé scientifiquement que les arbres sont nécessaires en ville pour justement essayer de réguler un peu la hausse forte des températures pendant l'été et aussi la baisse des températures pendant l'hiver. Les arbres sont capables de créer un microclimat autour d'eux et en dessous d'eux surtout pour que ce soit un peu plus vivable, quoi, pour éviter les extrêmes de température. Donc ça, c'est un des nombreux avantages des arbres en ville. En plus du paysage et juste du plaisir de les voir, mais aussi de la biodiversité qu'ils amènent avec les oiseaux, etc. Donc oui, je pense vraiment que les collectivités cherchent en ce moment à retrouver leurs arbres ou alors à maintenir ce qu'ils ont déjà, d'autant plus que les riverains sont de plus en plus demandeurs pour les garder, parce qu'il y a vraiment un effet de les riverains de plus en plus se mettent à aimer leurs arbres, les arbres de leur rue, etc., et à les regarder tous les jours et à s'en occuper un peu. Il y a de plus en plus ça qui se montre. Donc il y a une réelle demande des collectivités pour faire attention à leurs arbres et les soigner s'il y a besoin.
Vous avez constaté, vous, depuis que vous avez commencé vos études, votre activité professionnelle, on viendra, parce que vous n'avez évoqué qu'une partie de votre formation, en fait, vous avez vu le public français changé de perception par rapport aux arbres?
Ben, moi, je suis encore jeune, donc j'ai pas beaucoup de recul, mais oui, j'ai vraiment cette sensation que de plus en plus, les gens regardent leurs arbres. C'est aussi beaucoup, notamment grâce aux études, aux dernières études qui ont été très, très diffusées sur la qualité qu'ont les arbres à communiquer entre eux, à se protéger contre les animaux, etc. Il y a eu des films avec Francis Allais, etc. Donc il y a vraiment un gros travail en amont de sensibilisation et puis de juste de science de recherche qui a fait que ça a beaucoup avancé ces dernières années. Et les gens, via ça, mais aussi via une grosse conscience écologique qui heureusement naît de plus en plus, ouais, sont de plus en plus sensibles à leurs arbres, aux oiseaux qu'il y a sur les arbres, etc. quoi. Donc ça c'est super et il faut que ça continue. Ouais.
Vous avez évoqué donc votre formation d'ingénieur avec le cursus classique du bon étudiant français, donc ces écoles prestigieuses que vous avez intégrées. Vous ne vous êtes pas contenté de cet aspect-là en termes de formation. Qu'est-ce que vous avez voulu aborder également?
J'ai beaucoup travaillé sur une autre thématique qui me passionnait beaucoup, c'était l'agroforesterie. Voilà, moi je crois franchement que l'agroforesterie est une des solutions qui va permettre d'aider l'agriculture moderne à redevenir saine et efficace.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire sans intrants chimiques et avec l'utilisation des bienfaits de l'arbre et des plantes qui s'entraident pour avoir une production intéressante. Donc l'agroforesterie, voilà, c'est l'association d'arbres avec par exemple des céréales, tout ça dans un même champ en fait. Et donc moi j'ai travaillé un peu là-dedans, notamment j'ai étudié l'agroforesterie traditionnelle maya au Guatemala dans des vergers de cacaoyers. Voilà, des techniques traditionnelles qui étaient faites là-bas depuis très longtemps.
Et qui seraient transposables sous nos latitudes.
Qui pourraient, en tout cas, qui valent le coup d'être étudiées, parce qu'il y a sûrement beaucoup d'idées à reprendre pour chez nous. Et donc voilà, c'était le sujet de cette étude qui était mon stage de fin d'études avec le CIRA, donc en 2010.
Vous avez également été au Portugal, vous avez également été en Provence, vous avez cumulé les expériences à ce
niveau-là. Voilà, ouais, c'est vrai que les stages que j'ai faits pendant mes études étaient à chaque fois assez originaux et passionnants. J'ai fait un stage donc près de Salon de Provence, dans une station de recherche expérimentation en arboriculture fruitière, notamment sur le poirier, beaucoup, la taille du poirier. J'ai fait un stage, effectivement, aussi au Portugal, dans une entreprise de production, transformation et revente de plantes médicinales, condimentaires et aromatiques en bio. Donc, c'était dans le nord du Portugal, dans les montagnes.
Donc, il n'y a pas que l'arbre qui a occupé voilà.
Non, moi
mais
j'étais.
C'était lié pour vous.
Oui, c'est lié. Et puis de toute façon, moi j'étais dans les études, comme de plus en plus les étudiants actuellement. J'étais un peu dans la recherche perpétuelle de ce que je voulais vraiment faire. On n'est pas trop dirigé quand on sort du bac. On a plein de passions, on ne sait pas trop où aller. Donc moi j'ai touché à beaucoup de choses différentes avant vraiment de concrétiser ces passions dans les arbres, quoi. Mais voilà, je voulais aussi beaucoup travailler dans les plantes médicinales, justement, à l'époque. C'était un sujet qui me passionnait bien aussi. Et voilà, donc en tout cas, j'ai ces ouvertures-là qui me serviront toujours toute ma vie. J'en suis très fier. Mais là, voilà, concrètement, je suis plutôt dans les arbres maintenant.
Vous avez aussi eu cette expérience professionnelle, hein, vous ne vous lancez pas dans votre propre activité.
Oui.
Vous avez été donc bureau d'études en diagnostic, on a prononcé le mot tout à l'heure.
Oui, effectivement, c'est exactement ça. Donc mon premier travail, c'était donc en Île-de-France, à Paris. Donc j'étais basé à Paris, mais je diagnostiquais l'état de santé, de sécurité des arbres dans l'Île-de-France en fonction des demandes des collectivités au sein d'un bureau d'études. Donc voilà, mes journées étaient consacrées à regarder les arbres un par un, tous les jours, toute la semaine.
Votre parcours professionnel vous a aussi mené en province ou dans les territoires, comme il est bon de le dire maintenant, puis en Guyane.
Tout à fait, oui. Mon second boulot a été du conseil technique auprès des agriculteurs de l'Est guyanais pendant 2 ans. Des agriculteurs qui faisaient donc du maraîchage, donc ce n'était pas que des arbres, mais aussi beaucoup d'arboriculture fruitière, plus ou moins tropicale. Et j'ai aussi été formateur au sein du CS et lagueur grimpeur en Guyane aussi.
D'accord. C'était avec un passage par l'INRA.
Oui, alors ça, c'était mon tout dernier poste. Effectivement, j'ai travaillé à l'INRA. C'était un remplacement donc en tant que chargé d'études avec une équipe d'une douzaine de personnes pour de la phénologie, c'est-à-dire une meilleure connaissance de l'arboriculture fruitière sur différentes espèces de ces fruitiers.
L'arbre, globalement, est-ce qu'on a une idée du nombre d'arbres en France, sur le territoire métropolitain?
Ben non, enfin je on a surtout en fait on a dans les arbres en France, on a différentes grosses catégories. On a les arbres de forêt, hein, qui sont vraiment les plus représentés, les plus connus. Il y a donc les vergers aussi qui représentent beaucoup d'arbres, même si très souvent on connaît les vergers comme des pommiers ou poiriers, qui sont des arbres très très réduits à force des sélections, etc. On a donc l'agroforesterie dont on a parlé un peu tout à l'heure.
On y reviendra parce que ça a éveillé ma
C'est assez
curiosité.
passionnant, ouais. Et on a ce qu'on appelle les arbres hors forêt ou les arbres de bocage. Donc c'est tous ces arbres, moi, sur lesquels plutôt je propose mon aide actuellement. Donc c'est tous les arbres de ville ou des parcs, les arbres périurbains, les arbres des particuliers, des collectivités, du bord des routes, en alignement, etc. Tous ces arbres qui sont un peu plus ou moins isolés ou embosqués, mais qui n'ont pas d'utilité de production de bois ni de production de fruits. C'est ces arbres un peu, qui n'ont pas de but lucratif propre, mais par contre, qui ont vraiment un vrai objectif paysager, de biodiversité, de cadre de vie, en fait, d'une manière générale.
Et ils sont nombreux. Et c'est votre projet de vous occuper d'eux avec A comme arbre. Nous reviendrons à la présentation de votre cabinet après une première pause musicale. Metronomy, She Wants. Count every second, Comme arbre, c'est le cabinet d'expertise et de conseil en arboriculture créé par Jean-Eudes Bégard. Arboriculture, véritablement, c'est quoi le nom de votre discipline?
Moi, je suis expert conseil en arboriculture ou arboricole. On n'a pas de vrai nom précis parce que on est capable de toucher à plusieurs choses différentes, mais en tout cas, on est toujours proche de la santé et de la gestion de l'arbre. On est là pour aider les gestionnaires de patrimoine arboré, d'une manière générale.
Avec, comme vous l'avez dit, votre sujet, votre cœur de métier, ben, ce ne sera pas donc les exploitations forestières ou les vergers, même si ce sont des choses que vous avez abordées, c'est cette notion de l'arbre hors forêt.
Tout à fait, oui. Tout à fait. Tous ces arbres, donc, comme on disait tout à l'heure, qui sont isolés ou en alignement ou dans les jardins des particuliers, c'est pas des arbres qui ont un but de production de bois ou de papier ou de fruits, mais c'est des arbres qu'ont quand même une valeur ajoutée importante et qu'on veut aider au maximum si on veut les garder.
Et du coup, naturellement, ces arbres, on les retrouve dans différents contextes, parce que là, vous parlez aussi bien, je ne sais pas, mais si on a une propriété avec un parc planté, ça arrive dans nos coins, notamment dans l'Ouest, on peut faire appel à vous. On peut, si on est maire d'une commune, et parfois, c'est un nombre important d'arbres. Vous me disiez, là, en préparant l'émission, combien d'arbres, par exemple, sur Nantes ?
Une commune comme Nantes a 70 000 arbres au sein de son territoire. Donc, entre les arbres d'alignement, les arbres dans le parc, il y a des parties très boisées, il y a des arbres isolés au milieu des places, au milieu des ronds-points. Tous ces arbres-là comptés ensemble sont environ de 70 000 pour Nantes et c'est une ville assez arborée qui a une équipe de gestionnaires de leurs arbres qui est très développée mais
on disait on peut imaginer que les communes vont de plus en plus planter puis vous proposez aussi vos services à des entreprises particulières.
Tout à fait, oui. Aussi bien, donc je propose mes services vraiment à tout niveau, aussi bien de la plantation jusqu'à l'accompagnement pour la gestion d'un vieil arbre ou de tout un parc de vieux arbres, par exemple. Aussi bien aux particuliers qui auraient juste un arbre ou un parc. Aussi pour les collectivités, donc aussi même les petites communes de 200-300 habitants qui ont juste un arbre devant la mairie, ou alors les plus grosses communes qui ont un besoin ponctuel ou en permanence de surveiller leurs arbres ou leurs nouvelles plantations, etc. Mais aussi auprès des professionnels, les paysagistes, les pépiniéristes, les grimpeurs et lagueurs qui auraient un besoin de partenariat ou de l'aide pour du suivi de plantation, par exemple, ou des paysagistes qui peut-être auraient besoin d'un complément d'information sur des arbres, des conseils d'arbres à maintenir dans un projet de construction, par exemple. Voilà, tous ces domaines-là, je propose mon service, en fait.
Voilà, que ce soit d'ailleurs, je vais dire, au coup par coup, ou sur éventuellement des contrats de plusieurs années si les besoins s'en font sentir.
Exactement. Pour un parc un vieux parc, par exemple, d'un château ou d'une belle demeure d'un particulier, par exemple, c'est vraiment qu'un exemple. Mais je peux proposer, donc, suite à un diagnostic et un inventaire des arbres du parc, je peux proposer un accompagnement dans le temps avec la mise en place d'un plan de gestion pour savoir quels sont les travaux à faire en urgence, quelles sont les tailles à faire à quel moment de l'année, quels sont les renouvellements possibles, etc., pour continuer à avoir un beau parc avec une forte valeur paysagère qui doit être le sien.
Vous êtes, encore une fois, au-delà de la notion, encore une fois, vous occupez d'arbres qui n'ont pas une valeur, je veux dire, économique en tant que tel.
Exactement, oui. On peut pas, oui, voilà, on peut pas dire qu'on vend quelque chose de cet arbre-là, mais par contre, il a une réelle valeur paysagère, environnementale, mais aussi on s'occupe des arbres qui peuvent présenter des dangers de tomber sur une voiture, une maison ou sur quelqu'un qui passe. S'il n'y a pas ces médecins-là, de peur de prendre trop de risques, il y a beaucoup de villes qui actuellement coupent leurs arbres en se disant ben,
c'est ce que j'ai... Malade, j'allais justement vous en parler. Je suis quand même très surpris de la politique de certaines communes de systématiquement couper des arbres dont on nous dit qu'ils sont malades, qu'ils commencent à représenter un danger. Je comprends les élus qui ne souhaitent absolument pas prendre de risques parce que c'est leur responsabilité qui est en cause. Mais on voit d'ailleurs les réactions que ça peut parfois poser quand on coupe certains de ces arbres qui appartiennent véritablement au paysage d'une commune. Vous pensez que parfois on coupe trop tôt ou c'est trop radical ou que le diagnostic n'a pas été bien posé?
Ben justement, souvent, malheureusement, le diagnostic n'a pas été fait du tout, en fait. Il y a des arbres qui sont coupés, il fallait les couper, il était urgent, etc., j'en doute pas. Il y a aussi des arbres qui sont coupés sûrement par manque un peu de connaissances. Il y a des arbres qui semblent malades de l'extérieur qui sont un peu douteux sur leur assise, sur leur base, mais en fait qui tiennent très bien le coup et qui poseront aucun problème, aucun danger. D'autres, par contre, qui ont l'air très très beaux de l'extérieur, seraient peut-être à regarder plus en profondeur, malheureusement, parce qu'ils peuvent, ils risquent de tomber du jour au lendemain.
L'aspect d'un arbre, en l'occurrence pour vous en tant que spécialiste, ne veut rien dire.
Mais n'est pas suffisant. Ça, c'est de bonnes indications. Quand on connaît un peu comment fonctionne un arbre, on en sait beaucoup juste en le regardant, mais il y a des arbres qui peuvent présenter des doutes et qu'il faut regarder un peu plus en profondeur. La mise en sécurité est un peu... Si un arbre risque de tomber, en tout cas, s'il est douteux pour une commune, moi, je suis là aussi pour prendre ce risque, pour dire, bon, bah, écoutez, moi, j'ai diagnostiqué comme étant encore en bonne santé ou alors il est capable de tenir debout. Donc, c'est moi qui prends ce risque si un jour il tombe. Donc, ça peut être aussi rassurant pour ça, pour une commune, un service technique d'espace vert, etc.
En tout cas, les propriétaires de parcs, les communes, les collectivités territoriales de façon générale, hein, puisque oui, c'est pas simplement les communes, enfin, il peut y avoir, où les entreprises peuvent d'ores et déjà vous contacter. Je vous rappelle que le cabinet s'appelle A comme arbre. Merci de nous avoir ouvert un pan. L'arbre est commun, mais on le connaît mal. Merci Jean-Luc Bégard de nous avoir rejoint dans le studio de D4B et beaucoup de succès dans votre projet. Nous retrouverons bientôt en musique sur D4B.
C'était le magazine sur D4B 90.4 en Pays-Mélois, le 101.4 sur le Nureté et sur le net radiod4b.so.fr. Les programmes se poursuivent sur votre radio préférée. We'll be right back.